peux expliquer le logiciel libre en trois mots? Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus, merci d'y être encore si vous y étiez déjà, car le direct continue sur le 92.1 de la bande FM de Bruxelles. C'est source, comme tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, de 18h à 19h30. Une petite entrée sur le monde du libre, des libres, de toutes les formes, de toutes les possibilités possibles, imaginables. Et les petites lumières rouges s'allument de tous les côtés. Car. Et oui, source, c'est d'abord du travail collaboratif, c'est de l'intelligence collective, sapristouille. Je mettrai un petit peu de volume dans mon casque, tiens, comme ça j'ai l'impression que tu vois bien. Bonsoir, chers amis. Bienvenue, nous avons un peu de Tariro qui est un peu de Tirce et un peu d'Ageo, déjà ici au micro.
Bonsoir. Alors, intelligence collective, j'irai pas jusque là. Hein.
Bonsoir. Bisous. Bonsoir.
Un micro de réglé et de vin.
Alors salut Frédux.
Ah salut Ageo, voilà, tout est à posto. Et nous avons donc ici dans la vraie vie, mais nous avons aussi grâce aux internets et aux longs tuyaux la possibilité aussi d'avoir quelques autres chouettes gens dans d'autres contrées.
Mais le TEDx informe qu'il n'y a encore personne.
D'accord, donc c'est bien à l'adresse mumble.src.brussels. Que vous pouvez venir nous faire un chouette petit coucou sous le 02 640 87 17. Enfin, c'est réservé pour la guest list, des cadeaux et tous les agendas culturels de Campus. Mais
c'est pas le téléphone rose de Campus.
Ce sont les... Non, on a déjà essayé de mettre un répondeur dessus pour faire chic, mais comme il y a toute une centrale là derrière, c'est pas évident.
Mais quelle est cette suite étrange de numéros que vous venez de citer?
Ouais, on préfère le 3615 Campus. Fred Chouette, revenir au bon vieux temps du Minitel.
J'ai pas connu.
Bon, le 3615, c'est dans tous les films maintenant, presque, quand on en reparle un petit peu.
Des vieux films.
Et des moins vieux.
Aujourd'hui, c'est pas dans tous les films. Hein. Je ne sais pas où tu regardes tes programmes télévisuels.
Sur Pistube.
C'est pas. On ne dit plus 3615.
Sur Pistube.
Je m'entends dans mon oreille maintenant. C'est quand même mieux.
Il regarde ses programmes sur PaperTube.
Sur quoi?
PaperTube.
PaperTube, ouais.
C'est pas facile de le répéter. Pas de le répéter deux fois.
Ouais, alors...
Tu l'écris comment?
C'est à propos de PaperTube. À propos de PaperTube, justement, je viens de tomber sur un petit retour dans les années 2017, donc c'était il y a 3 ans, aux rencontres mondiales du logiciel libre. Il y avait un beau philosophe qui vient de loin, de vachement loin, et qui pourrait bien nous entretenir un petit peu de Gilbert Simondon. Tu vois-tu ce que je veux dire?
Oh là, ça me rappelle quelque chose de bien loin, ça, Simondon. On en avait parlé au mois d'octobre quand on était à THX avec petite singularité à plein d'autres gens. C'était vraiment chouette. Moi, j'ai pas tout compris.
Mes condoléances aux Québécois qui nous écoutent.
Non, ils saignent de leurs oreilles. Apportez-leur des mouchoirs.
Voilà. Donc voilà, pensez le sens du code source à la lumière de Gilbert Simondon par Stéphane Couture de l'Université de York au Colorado.
Vas-y, balance alors la sauce.
Oui. On peut se rafraîchir un petit peu les oreilles. Et pendant ce temps-là, on peut se rafraîchir un petit peu le gosier. Ce qui...
Mais moi, je vais écouter, hein, je te préviens, j'ai envie de savoir de quoi on parle.
Il fait tabarnak chaud ici dans les studios de campus.
C'est pas fou.
Oui, hein, c'est un seuil d'évaporation de la mousse sûre comme ça qui est vraiment impénétrante de ce pauvre petit grizzly. Oh oui, c'est pas comme couillou le caribou, là. C'est pas la même chose. Bon, Simondon, on en parle beaucoup ces derniers temps.
Au Canada. En fait, on m'a approché pour faire une... On m'a approché pour faire une présentation sur Simondon, sur Gilbert Simondon, ou plutôt en hommage à Gilbert Simondon. Gilbert Simondon, qui est un philosophe de la technique, qui est décédé en 1989. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Qui est décédé en 1989 et en fait qui est né à Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, comme vous le savez, c'est cette ville-ci. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler de Simondon. Et comme j'avais travaillé sur ce philosophe-là et sur le logiciel libre, ben c'est pour ça qu'on m'a demandé d'en parler. Ceci dit, ça fait assez longtemps que j'ai travaillé là-dessus, donc j'ai récupéré des documents d'archives, en quelque sorte, pour vous présenter ça. Qui connaît ici Simondon? Ah, trois personnes. Bon. Donc, ma présentation, en fait, elle va être assez pédagogique. Je vais présenter des extraits de vidéos de Simondon et des extraits des citations de lui pour montrer un peu l'esprit du philosophe, l'esprit de l'auteur. Et je vais essayer, en fait, de voir comment il aurait analysé le logiciel libre, le code source et tout ça. Je vais essayer de faire ça ouvert un petit peu. Peut-être que ça va vous interpeller aussi ce que Simondon disait et comment vous voyez en fait son approche, sa réflexion sur le code source. Donc, vous pouvez visiter ma page web si vous le voulez. Donc, comme je l'ai mentionné, Gilbert Simondon, on l'attribue beaucoup à un philosophe de la technique, mais son œuvre est beaucoup plus large, en fait. Il a cherché à penser le concept d'individuation, OK? Comment, en fait, des êtres techniques ou des êtres vivants viennent à se différencier d'autres êtres et deviennent des individus. Un exemple facile, ça serait un bébé. Un fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas de différence entre la mère et l'enfant, même avant. Et progressivement, l'enfant devient à devenir un individu au point d'être complètement séparé de sa mère. C'est un peu ça qu'il pense, OK, mais pas seulement la question du fœtus, mais l'ensemble des individus sur Terre. Donc, les individus autant techniques que biologiques. Donc, il est né à Saint-Étienne en 1924. Il est mort le 7 février 89 à Palaiseau, près de Paris. Il a défendu sa thèse de doctorat en 58 qui s'appelait « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information ». Donc, c'est surtout une réflexion en opposition à la cybernétique, s'il y en a qui connaissent la cybernétique. Et il a réalisé plusieurs autres publications jusqu'en 69. Simondon est mort en 89, mais en fait, il est mort dans la solitude. Ça arrive souvent pour des intellectuels. Et sa pensée a été redécouverte dans les années 2000. Donc, à partir des années 2000, on a commencé à republier ses œuvres, mais ensuite, on a trouvé dans ses greniers, dans sa maison, certains extraits de cours, ces notes de cours qu'on a republiés. Et il a commencé à être traduit en anglais vers 2010-2015. Donc, c'est tout récent. Et souvent, bon, ça va aux États-Unis, ça revient ensuite. Donc, ça se peut que dans quelques années, il va être très populaire. Ceci dit, il a influencé des philosophes très connus comme... très influents comme Gilbert Deleuze ou Bernard Stiegler, que vous connaissez sans doute peut-être aujourd'hui. Donc, moi, je vais me concentrer ici sur un de ses livres, son livre qui a été, en fait, c'est comme la deuxième partie de sa thèse de doctorat et qui a fait l'objet d'une publication immédiate suite à sa thèse de doctorat en 1958. Je ne vais pas rentrer, en fait, dans les détails de tout, toute sa théorie, je dirais. En fait, pour les personnes qui étaient présentes à la présentation de Colin il y a deux jours, elle a présenté plus un peu en détail qu'est-ce que c'était un objet technique. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, en fait, chez Simondon, c'est son objectif que je dirais politique. Il ne parle pas de politique lui-même, mais je le définis comme ça. Qu'on peut voir, en fait, dès la première phrase de son ouvrage, il dit « Cette étude est animée par l'intention de susciter une prise de conscience du sens des objets techniques. » Okay? Et même dans le paragraphe suivant, il dit que cet objectif lui apparaît pour lui aussi important que l'émancipation des esclaves. Okay? Donc, il prend ça très au sérieux. Et en fait, c'est la critique qu'on peut faire à Simondon. C'est, bon, c'est peut-être pas aussi important que de libérer les esclaves, son projet. Mais c'est un projet qui parle beaucoup aux techniciens, aux gens qui ont une sensibilité technique. Donc, deux choses avant, les personnes que je pensais qu'elles allaient être là ne sont pas là, mais deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Simondon n'aborde pas beaucoup les enjeux politiques, économiques, sociaux. Donc, je ne vais pas beaucoup aborder ça ici. Je suis prêt à l'aborder dans d'autres présentations ou en discussion, mais ce n'est pas l'objet de ma discussion. Ensuite, c'est de la philosophie. Donc, c'est pas facile à instrumentaliser, OK? On peut avoir une réflexion à quoi ça sert, Simondon, mais pour moi, ça sert à comprendre le monde. Ça sert pas à faire un logiciel libre en tant que tel ou à changer les politiques. Je vais montrer un extrait de Simondon que j'espère qu'il va fonctionner. Donc, en fait, c'est une vidéo, c'est la seule entrevue avec Simondon qui a été réalisée par ailleurs par Radio-Canada, par les Québécois, en 1968. Et ça vous donne un peu une idée du personnage. Je vais passer une minute. Donc, je vais essayer de faire ça. OK.
Et vous situez à votre sens de quelle façon dans ce courant mécanologique encore incoatif,
on comprend pas très bien.
Vers quoi entendez-vous le faire déboucher?
Oui. Je voudrais aller surtout vers quelque chose de culturel. Ce qui, maintenant, me préoccupe le plus, ce n'est pas une étude froide et objective que je crois nécessaire. Une étude froide et objective des choses, je ne veux pas faire un musée, encore que j'en reconnaisse la nécessité et l'utilité. Je voudrais surtout éveiller culturellement mes contemporains en ce qui concerne la civilisation technique, ou plutôt les différents feuillets historiques et les différentes étapes d'une civilisation technique. Car j'entends des grossièretés qui me découragent. Particulièrement, l'objet technique est rendu responsable de tout. Nos civilisations sont techniciennes, il n'y a pas assez d'âmes, ou bien la civilisation de consommation est rendue responsable des désastres de nos jours et du désagrément de vivre. Elle n'est pas tellement technicienne, notre civilisation, mais quand elle l'est quelquefois très mal. Autrement dit, je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal
Donc, il disait qu'elle était mal technicienne. Mais vous voyez, en fait, son objectif, c'est de changer le tempérament, la culture. OK? Donc, c'est vraiment ça, en fait, que moi, je retiens, que je veux retenir ici. Donc, j'essaie de... la diapo active, donc je t'ai rendu là. OK. Donc, en fait, une des choses que Simondon reconnaît, constate, en fait, il ne reconnaît pas, mais il constate dès les premières pages, dès l'introduction, il note un peu comme on le mentionnait dans la vidéo, il note que la culture, en particulier la culture occidentale, est déséquilibrée parce qu'elle reconnaît certains objets, comme l'objet esthétique, comme en fait des objets qui ont du sens, une certaine signification culturelle, mais d'autres objets, surtout les objets techniques, seraient en fait sans structure, n'auraient pas de sens, n'auraient pas de signification. Ce seraient des individus qui seraient morts, inertes. Okay? Et en fait, c'est contre ça qu'ils s'opposent. Pour Simondon, en fait, ce qu'il appelle ce déséquilibre ou ce malaise de la technique, a pour conséquence ou a pour symptôme deux attitudes différentes face à la technique. D'une part, en fait, l'idolâtrie, donc les personnes qui sentent la signification, qui sentent en fait qu'il y a un sens aux objets techniques, qu'un objet technique peut être beau ou peut avoir, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est les mots qu'il utilise, peuvent avoir une certaine poésie, mais sont pas capables de l'exprimer en tant que poésie parce que c'est pas reconnu dans la société. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont idolâtrer les objets techniques. Okay? Une espèce d'idolâtrie de la technologie. Okay? Donc, vous avez sûrement entendu ça, une technophilie ambiante, les gens, en fait, croient que Facebook ou que n'importe quelle technologie va sauver le monde. Et de l'autre part, un dénigrement, OK? L'objet technique n'est que purement fonctionnel, sans signification. Et en fait, c'est d'aucun intérêt. On ne va pas l'étudier de façon anthropologique ou culturelle ou quelque chose comme ça. Donc, Simondon réagissait à plusieurs autres auteurs de son époque, notamment Jacques Ellul et Heidegger, qui notaient que la technologie envahissait le monde, en fait, et qu'on devenait un monde de plus en plus froid et inhumain. Ce que Simondon dit, c'est que, au contraire, en fait, la technologie va pas, c'est pas un nouveau dieu, ok, c'est pas non plus un monde inerte, mais en revanche, c'est quelque chose d'humain. Il faut l'appréhender comme quelque chose d'humain, de façon très humble, ok, ni plus ni moins que ça. Donc, une des choses, on a parlé avant hier à la présentation, mais Simondon définit en fait l'objet technique de par sa genèse. Okay? Donc, l'objet technique, c'est un objet qui a une genèse qui s'inscrit dans une espèce de généalogie technique. Donc, il y avait un objet plus ancien, un objet technique plus ancien, et qui devient plus nouveau. Il y a d'autres objets plus récents qui émergent et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Simondon, c'est de voir l'objet technique comme une médiation. Okay? Donc, Simondon ne voit pas seulement l'objet comme un instrument. En fait, il s'oppose à une vision instrumentale, à savoir que c'est un instrument, mais il voit plutôt comme une médiation. L'objet technique, c'est un point de rencontre entre deux milieux. Okay? Il doit être intégré à deux milieux à la fois. Mais ces milieux ne sont pas compatibles. Okay? Donc, en fait, ce qui l'intéresse, lui, c'est tout le travail qu'il appelle de concrétisation, le travail que les humains doivent faire pour adapter l'objet technique à deux milieux. Okay? Donc, en fait, si on prend l'exemple d'un marteau, simplement, c'est des exemples, c'est ce qu'il appelle un individu technique. Un marteau, en fait, au début, un marteau, c'était une technique qu'on utilisait les mains, en fait, pour clouer quelque chose, pour assembler. Et progressivement, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait des bouts de matière, du bois, on travaille le bois, on attache la roche, OK? Et tout ça, en fait, tout ce travail-là qui est progressivement fait de façon historique va constituer une médiation. Donc, on change la nature et l'objet technique va être, dans certains sociologues, plus contemporain, va dire que ça va être un mix stable d'humain et de naturel. Okay? Et le processus de concrétisation, c'est cette idée-là, en fait, de stabiliser l'objet pour qu'il soit fonctionnel, en fait. Mais dans le processus, lui, ce qui l'intéresse, c'est le processus qui fait que les gens vont travailler, vont construire un objet et vont essayer de le rendre compatible entre les besoins humains et les besoins naturels. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une dimension culturelle. Donc, en fait, dans tout, je vais regarder, c'est peut-être pas la bonne. OK. Je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, suivant cette question-là de voir l'objet technique comme une médiation entre l'humain et le naturel, lui, ce qu'il voit, en fait, c'est il fait une analyse en disant, il critique beaucoup la robotique. Il dit les robots, on a une fixation sur les robots, justement, on va les sacraliser aujourd'hui. Les robots vont être vus comme la perfection technique. Et en fait, Simondon dit la perfection technique, ce n'est pas l'automatisme. En fait, c'est l'indétermination. C'est le fait qu'une machine ou un objet va être facilement associé à différents usages ou à différents environnements, va pouvoir être adapté. Donc, il écrit une machine purement automatique, complètement fermée sur elle-même, dans un fonctionnement prédéterminé, ne pourrait que donner des résultats sommaires. Le véritable perfectionnement des machines correspond au fait que le fonctionnement d'une machine recèle une marge d'indétermination, ce qui va appeler une machine ouverte, contrairement à une machine fermée. La machine ouverte va être plus propice à faire cette médiation-là et se transformer progressivement, arriver à faire différents liens entre la nature et entre l'humain, mais plus généralement entre les machines entre elles, la nature et l'humain. OK? Donc, en fait, Simondon s'est beaucoup penché, en fait, justement, pourquoi notre culture est en quelque sorte déséquilibrée. Et il a travaillé le concept d'aliénation. En fait, ce sentiment de déséquilibre par rapport aux technologies, il appelle ça l'aliénation. Donc, les gens sont aliénés par rapport à la technologie. Et en fait, dans ce sens-là, il reprend en quelque sorte Marx. Qui connaît, vous avez déjà entendu parler de Karl Marx ici, sûrement. Donc, un peu. Donc, moi, je suis pas un spécialiste de Marx, mais peut-être les gens vont me rappeler. Mais pour Marx, en fait, l'idée, c'est les travailleurs étaient aliénés dans leur travail, dans le sens qu'ils n'étaient pas propriétaires de leurs moyens de production. Okay? Il n'y avait pas la propriété collective, individuelle ou collective, mais ce qui l'intéressait, c'est surtout la propriété collective. Donc, autrement dit, ils travaillaient, mais le fruit de leur travail leur était aliéné dans le sens qu'ils ne le possédaient pas. Donc, Simondon critique Marx et propose une définition plutôt ce que j'appellerais psychocognitive de l'aliénation. Pour lui, l'aliénation, pour Simondon, l'aliénation, c'est le fait de ne pas avoir conscience des schèmes de fonctionnement, de ne pas prendre conscience du sens des objets techniques. Okay? Donc, l'aliénation, ça serait une non-conscience du fonctionnement. Donc, par exemple, bon, le travail à la chaîne de Simondon, il reconnaît que les travailleurs sont aliénés, mais pas parce qu'ils n'ont pas la propriété de la production, mais parce qu'ils sont dans une chaîne puis ils ne sont pas capables de voir l'ensemble du fonctionnement technique. Okay? Ils vont travailler seulement sur un individu. Mais il note aussi que la relation de propriété, il critique l'idée en fait que les banquiers ne seraient pas aliénés, mais il mentionne que les banquiers sont autant aliénés que les travailleurs par rapport à la machine. Okay? Parce que les banquiers voient la machine comme quelque chose d'instrumental, quelque chose qu'on peut maîtriser, mais ils ne cherchent pas en fait à être... à comprendre, à être, il va appeler ça des psychologues des machines, en fait, de voir comment ils fonctionnent ensemble. Même chose, la relation d'usage pour lui, pour Simondon, en fait, c'est la relation d'usage, c'est une relation instrumentale par rapport aux technologies. Et le fait d'utiliser un ordinateur, par exemple, ou un autre objet, sans comprendre au minimum, sans avoir conscience du fonctionnement de la machine, va être une relation aliénée avec la technologie. Donc, pour Simondon, une relation non aliénée, c'est qui peut faire ça? Il essaie de l'appeler, il dit que ça serait en quelque sorte un espèce d'ingénieur des organisations ou un psychologue des machines qui va vivre au milieu des machines, les regarder entre elles et tout ça. Okay? Donc, là, je disais ça. Donc, il dit, en fait, lui, ce qu'il perçoit, donc la relation non aliénée aux objets techniques, ça serait, il demande que l'humain devienne en quelque sorte comme un organisateur permanent des objets techniques. Okay? Donc, plutôt que de voir des objets techniques, les technologies comme quelque chose de fermé, okay? L'humain serait en quelque sorte comme une espèce de chef d'orchestre au milieu d'une société des technologies, okay? qu'il va mettre en relation continuellement les uns par rapport aux autres, okay? et va en prendre soin. Son écriture est très belle, en fait. Là. Donc, la machine qui est douée d'une autre technicité est une machine ouverte, et l'ensemble des machines ouvertes suppose l'homme ou l'humain comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres et qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Okay? Donc, la relation que Simondon voit avec les techniques, c'est celle, en fait, du chef d'orchestre par rapport à ses musiciens qui va essayer d'animer les objets techniques pour les faire fonctionner entre eux. Okay? Donc, en fait, moi, je travaillais dans la programmation et dans le mouvement du logiciel libre avant de commencer d'étudier ça, et ça m'a beaucoup interpellé parce que, en fait, j'essayais de voir toujours c'était quoi le sens, en fait, du mouvement du logiciel libre. Il y en a qui disent que, bon, Richard Stallman va dire que c'est des questions éthiques de donner le droit de coopérer. Il y en a d'autres qui vont dire ben c'est le fait de pouvoir avoir la collaboration va être plus efficace quand le code source va être ouvert. En interprétant Simondon, en fait, certaines personnes ont dit que si on interprète Simondon, on pourrait voir le mouvement du logiciel libre comme un mouvement qui revendique accès à l'expressivité du code. Okay? Donc, c'est de voir, en fait, le code, le fonctionnement interne du logiciel comme quelque chose de culturel. et pas seulement quelque chose de technique. Okay? Donc, quelque chose qui est humain en soi et pour cette raison qui ne devrait pas être enfermé, en fait, dans une machine. Il ne devrait pas être enfermé. Donc, en fait, une des choses qui anime beaucoup, je pense, les acteurs du logiciel libre, c'est de pouvoir de garder une certaine notion de modularité, okay, dans les objets, de façon à pouvoir les assembler continuellement et les retravailler. Dans l'esprit du logiciel libre, un logiciel va être toujours, d'une certaine façon, en évolution jusqu'à temps qu'il soit abandonné. Donc, il va toujours être en constant changement. Dans ce sens-là, le programmeur, et en particulier le chef de projet, va être en quelque sorte un chef d'orchestre qui va rassembler des bouts d'objets techniques ensemble et les faire travailler ensemble pour que ça donne un ensemble technique plus grand. Donc, combien de temps il me reste, en fait? J'ai 20 minutes, c'est pas si mal. 15 minutes. Bon, déjà là, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que ça vous parle, tout ça, ou pas du tout? Comment vous voyez, en fait, l'esprit? Là, je donne un peu mon interprétation, mais j'ai l'impression, j'aimerais bien savoir, en fait, ce que vous pensez. Est-ce que ça résonne auprès de vous? Et par rapport au monde du logiciel libre. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler? Ou il est trop tôt pour parler? Oui. Non, je parle. Qui? Est-ce qu'il y en a qui voient aucun lien? Est-ce qu'il y en a qui voient quelques liens? OK. Donc voilà. Et ensuite... La dernière chose, en fait, puisqu'on est dans le courant de l'esthétique, le thème de l'esthétique, j'ai décidé d'aborder aussi la question de l'esthétique. Encore là, il y a peut-être plus ou moins, le lien n'est pas si évident, mais en fait, moi je le vois, là, mais c'est pas complètement évident. Donc, en fait, Simondon a abordé aussi la question de l'esthétique. Bon, il parle beaucoup de la culture et tout ça. Et en fait, dans un des chapitres de son livre, il parle, c'est complètement fascinant et des fois on se demande à quoi il pense exactement, mais il aborde en fait le lien entre l'esthétique, la technique et le religieux. OK? Donc, pour Simondon, en fait, dans le monde pré-moderne, en fait, l'esthétique, la technique et le religieux étaient réunis dans le magique. Okay? Donc, le magique, c'était quelque chose à la fois de sacré, qui fonctionnait, et c'était quoi? Esthétique, technique et religieux. Le magique, c'était quelque chose de beau, de religieux et qui fonctionnait. Okay? Donc, si on faisait un rituel, par exemple, qui servait à faire venir la pluie, bien, ça avait une composante à la fois religieuse, technique et esthétique. Ça fait trois fois que je le dis, mais bon. Donc, dans l'époque moderne, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'esthétique et la technique se sont... l'esthétique et le religieux se sont distingués. Non, l'esthétique... Excusez, la technique et le religieux se sont distingués. Là, ce qu'il voit, c'est ce qui réunit, en fait, la technique et le religieux, c'est l'esthétique. OK? Et, bon, là, j'ai pas assez préparé mon truc sur cette question-là, mais la technique, en fait, la technique, sa particularité, ça va être d'être détaché. OK? Et l'esthétique, ça va être, sa particularité, c'est d'être attaché à un milieu. Donc, en fait, pour Simondon, un objet technique qui va être beau, c'est un objet qui va être bien attaché à son milieu, bien attaché à son milieu. Donc, je vais présenter... We'll be right back.
liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Mais voilà un bon petit générique pour faire le tour de Simondon. Et c'est effectivement le problème de la technique et de la technologie qui a donc amené à cet Alexander Zelanov et son morceau Uncatchable pour faire une petite pause dans ce long documentaire. Car évidemment, ça fait office du teaser de 18h32. C'est que la suite est sur PeerTube via peertube-index.net. Vous tapez Simondon. Et vous avez la suite et les explications de ce monsieur Couture de l'université de York au Canada. Et oui, voilà, Simondon, ben oui, parce que nous avons aussi parmi nous, parmi l'équipe des camarades libristes de Bruxelles, une tristesse à intérioriser, non, à accueillir. Notre ami, copain, collègue, libriste Robert Sebi nous a quittés et il laisse un site internet robert.sebi.name et je suis tombé sur son mémoire qu'il avait défendu, je crois que là on était en pas si longtemps que ça, c'était en 2002. Et je trouvais que quand même il y avait quelque chose d'assez similaire entre la pensée que développait Simondon et celle que Robert Sebi met dans son mémoire, avec pour titre Internet 2. L'outil virtuel des réseaux réels. Petite citation, où on peut faire coucou d'abord à... Nous avons Holm sur le Mumble, pour être sûr qu'au moins techniquement, on s'entend bien. Salut Holm.
Putain de technique de merde.
Simondon l'avait déjà dit, hein,
on
effectivement.
On l'entend pas trop. Ouais.
En 1958, effectivement. Alors, je reviens à la page 6, parce que donc, il développait la méthodologie qu'il allait mettre en place là-dedans. Et je trouvais assez intéressant qu'il mette ici, par exemple, le projet Cyberécole, lancé par la communauté française de Belgique en coopération avec la région wallonne et la communauté germanophone. Sur les deux années scolaires, ouvrez les guillemets, hein, sur les deux années scolaires, 1998-1999 et 1999-2000, ce sont environ 20 000 ordinateurs multimédia connectés à Internet qui ont été installés dans les écoles primaires, secondaires et de promotion sociale de Wallonie. Côté, pourrait-on croire, humain, les communautés se chargent d'organiser la bonne intégration de ces nouvelles ressources dans le contexte éducatif. À cette fin, elles assurent la formation des enseignants, ainsi que la présence d'une personne ressource ou de contact dans chaque établissement et le développement d'un serveur pédagogique. Et en quoi consiste cette formation ? Il n'est question dans le texte que de l'enseignement primaire dans la région de Bruxelles-Capitale. Un demi-jour à un jour de formation sur les différents éléments software et hardware dispensés par le fournisseur des équipements. Où sont traités les problèmes de la relation entre Internet et le réel? L'objectif d'utilisation, la compréhension, l'analyse fonctionnelle des outils, le choix des outils adéquats, l'équité dans la communication, la capacité de gérer l'abondance d'informations, pour ne citer que cela. Dans ce projet, c'est la technique qui va tout résoudre. On a purement et simplement oublié l'homme. On peut sans grande chance de se tromper prédire l'échec du projet dans quelques années. Je maintiens donc avec force la pertinence plus que jamais nécessaire du titre du point 3.2.2 de ce mémoire. L'ancrage dans le réel, c'est l'homme. Voilà, petite citation de notre ami Robert qui défendait donc cette idée dans un long mémoire de 110 pages que vous pouvez trouver sur son site. Et il l'a posé sous... licence, j'ai vu passer le titre de la licence sur laquelle il l'a complètement déposé, ça va me revenir, Open Content License. Les textes de ce mémoire sont utilisables et reproductibles sous les termes de l'Open Content License. Voilà pour l'affaire de Robert. et de son outil virtuel des réseaux réels. Plein d'autres petites choses encore sur son site à visiter. Voilà pour les amis, les copains de Feu Robert. C'était un grand moment effectivement de pouvoir discuter avec lui. C'est comme si on avait un peu Simon Don, mais en 2000. Quoi. C'était un gros bonhomme. Donc voilà, il y a toute une série de chapitres, comment fonctionne Internet, la technique, les réseaux physiques, qu'est-ce qu'un protocole, les services d'Internet, les adresses.
Mais tout ça, ça marche pas.
Hein?
Ça marche juste pas.
En fait. Ça marche juste pas, surtout le vendredi, au fait.
Tous les jours. Ça plante en permanence, ça sert à rien.
Mm-hmm.
C'est une maladie mentale.
Juste, mais oui, mais n'empêche, tout le monde se jette dessus. C'est tous ces malades mentaux qui descendent de leur porte-manteau, peut-être. Mais
c'est tellement chouette d'avoir la petite télé-réalité dans sa main.
Oui, je monte un petit peu le micro, ça, quick. Donc, Open Content, tu disais aux antennes que l'idée des licences te plaisait bien pour aujourd'hui. En voilà une, par exemple, elle te...
Non, elle mais j'ai eu une discussion toute récente avec... des développeurs, des sysadmins, quelques personnes un peu techniques, hein, et quand on leur parle de licence libre open source, ils n'arrivent déjà pas à faire la différence, et puis ils avouent assez tristoun que « Ah mais nous on produit plein de contenu, mais on ne nous a jamais expliqué comment marche la licence.
»
Donc je me suis dit « Hey, un petit rappel, c'est bien de temps en temps. »
Et tu as commencé par quoi pour ce rappel vital ?
De les inviter à cette émission.
Ok.
Licence. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Permission. Liberté qui est accordée à quelqu'un. Permission que donne une autorité supérieure. Liberté que laisse la coutume, l'usage. Document écrit correspondant à une permission accordée par une autorité supérieure. Autorisation délivrée par l'administration d'exercer certaines activités économiques et plus particulièrement commerciales, moyennant redevance ou non. Je peux continuer, mais en gros, putain de concept patriarcal de merde. J'aime bien la licence do what the fuck you want, que tu fasses du pognon ou pas, je m'en branle, mais... En fait, rien que l'idée de mettre une licence, déjà, ça fait de moi un espèce de prétentieux qui accorde à quelqu'un des droits. Qui suis-je pour accorder à quelqu'un des droits ? À part un gros connard ou une grosse connasse, je ne sais pas.
Ouais,
donc voilà, je ne veux pas entacher le nom de ce défunt Robert Zenjo qui nous a quittés parce qu'il a laissé derrière lui un grand souvenir libriste parce que j'aurais bien aimé faire une émission radio avec lui, mais malheureusement, là, je faisais que ce n'était pas facile. On aurait bien aimé... Je me souviens, il y a un an, je voulais parler de LaTeX avec lui. J'y connais que dalle en LaTeX. Or, lui, je pense qu'il aimait bien.
Oui, oui, tout son...
Ça m'aurait fait plaisir de l'avoir sur Source pour qu'il puisse m'expliquer un peu c'est quoi LaTeX.
Tu parles de la matière ?
Oui, non, pas le LaTeX. LaTeX, le LaTeX, le machin qui permet de faire des mises en page de malades. Voilà. Mais bref.
Après.
Paix à ton âme, Robert.
Ouais, moi
sois libre.
Je vois la licence copyleft pas comme une prétention, mais comme une protection. Donc, dans le sens où. C'est pas le monde des bisounours, malheureusement. Où. T'as des compagnies qui veulent absolument. Qui n'ont d'autre intérêt que se récupérer ton travail ou bien ta communauté ou ce que tu veux. Pour en faire du pognon et la copyleft justement permet de protéger ton programme ou quoi donc c'est ça pour une œuvre écrite pour un livre ou quoi la what the fuck what the fuck licence a du sens je trouve mais pour un logiciel par exemple où c'est quand même et c'est quand même des algorithmes, etc. derrière, c'est toute une logique derrière. C'est un outil, en fait. Et un outil peut... Enfin, il ne devrait pas être privatisé, mais s'il le devient, eh ben, il sert les intérêts d'une force obscure, quoi. Si. Pour.
Tintin.
Pour un peu dédramatiser ça. Mais ouais, donc je pense que ça a quand même un intérêt de se protection. Mais bon.
Oui. Je protège mes droits. Ma création. Ma créature.
Non, moi je le vois dans je protège mes droits, effectivement. Mais y a évidemment, il y en a d'autres qui l'utilisent dans l'autre sens, qui protègent leur création. C'est clair. Mais voilà.
Après, une licence peut aussi servir de prétexte pour une vision plus politique. Je pense à tous les logiciels libres ont une vision bien plus politique, déjà juste par la réflexion du choix de la licence, qu'un logiciel open source qui juste contraigne quelques utilisations, mais s'arrête, entre guillemets, au code source, sans remettre en question la notion de licence.
Mmh, oui, je revois tout d'un coup sous les yeux le site internet là de chez Visual Capitalism, où les longueurs de temps nécessaires pour lire les différentes licences, enfin, est-ce que c'est d'abord une licence ou c'est juste un contrat de licence d'utilisateur final des gros éditeurs du monde commercial, parce que c'est dans ce domaine-là qu'apparemment les juristes sont les plus prolixes et coquins, hein, pour ne pas dire de gros mots plus. Mais voilà, le temps de lecture maximal, c'était quand même pour Microsoft notamment, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, ils y étaient tous, si vous pouvez trouver ça facilement.
Et c'est visualcapitalistenamo.com. Mm-hmm. visualcapitalist.com.
Ouais, ils ont chic de trouver tout plein de beaux graphiques. Et celui sur les temps de lecture nécessaires pour ces licences, c'était assez infernal. Mais la validité d'un copyleft au niveau légal dans les prétoires, dans les tribunaux, c'est crédible. Ou on va dire que c'est exotique.
Je ne me rappelle pas d'une jurisprudence dessus. Est-ce que les Creative Commons sont copyleft?
Ah, je sais pas, mais je pense.
Ils sont européennement reconnus, en tout cas.
Je suis pas juriste, mais je pense qu'il y a aussi une notion d'usage quand la loi doit trancher, enfin quand la justice doit trancher. Il y a la question de l'usage et s'il y a un truc qui est utilisé un peu partout, enfin au plus il est utilisé, au plus il y a des chances qu'il soit reconnu par la justice, quoi. Mmh. Mais je ne sais pas du tout si ça a été jusqu'en justice dans des cas de Creative Commons. Je ne pense pas, c'est assez rare à mon avis.
C'est quand même
En général, ce sont des conflits qui se règlent à l'amiable. Enfin, ça va grimper jusqu'au tribunal, mais la décision de justice, je crois que ça s'arrête avant, mais je dis peut-être des conneries. Hein, mais tu vois, ils vont essayer de négocier pour voyant qu'ils sont pas, ou soit s'ils sont, si l'une des parties est en train de perdre, ils préfèrent négocier que d'avoir la justice qui vient leur mettre une amende.
Je comprends.
J'ai pas étudié vraiment s'il y a la question des Creative Commons a été jusqu'à un tribunal, jusqu'à une décision de justice. Mais a priori, j'ai pas entendu parler.
Hein. Oui, voilà. Enfin, sans devoir nécessairement étudier la question, mais être tombé sur l'un ou l'autre article dans vos lectures favorites qui en parlait effectivement. Ça, c'est totalement envisageable aussi.
Ouh. Oula. Bonjour, Holm, mais on a entendu plus de bruit qu'autre chose.
Ouais. Voilà, mais donc je te laisse communiquer avec ces différents gens qui permettent, donc ça fait du bruit, hein, effectivement. Donc dans le studio, tout doucement, le beau monde arrive. N'est-il pas?
Dans le studio, c'est le bordel à côté, je sais pas ce qu'ils font, ils font une fiesta ou quoi, ouais. Mais...
Mais est-ce que Holm est là cette fois-ci?
J'ai peur. On dirait pas, hein. Moi je propose de laisser tomber, hein.
Sinon
en attendant, je vous propose un petit haïku de Robert. Haïku saison.
Printemps, été, automne, hiver. Printemps, 5 lumières, 2 jaunes, 3 rouges, un couloir. Été, 5 lumières, 2 jaunes, 3 blanches, un manoir. Automne, 5 lumières, 2 jaunes et 3 rouges, un beau soir.
Allô, allô.
Hiver, 5 lumières, bleu, vert, jaune, rouge. Au revoir.
Allô.
Oui.
Bonjour, Holm.
Bonjour.
Est-ce que tu as un casque?
Ah, vous avez le retour.
Oui.
Je pense.
Légèrement sur les bords, oui. Pas tout. Ah, c'est... Le... Ça, c'est le micro de Jean-Luc.
Ah ouais.
Jean-Luc...
Mais quelle bande de sauvages, quoi.
Ah ouais,
je
oui.
Confirme.
Bon, voilà, on va mettre les affaires en place. Donc, Holm va chercher un casque et micro pour Jean-Luc. JLM.
Ils vous entendent plus, hein, parce que je me suis déplacé.
Ok, ok, nickel.
Ils sont pas sages, donc moi je pars.
Ah, et tout passe par chez toi, donc c'est ça va, c'est super. Bon, écoute, je te laisse effectivement gérer ça. Le temps d'un petit morceau, on n'est plus en cinématique pour autant. Mais c'est chouette, on approche de la quintessence. Ça devient voilà. Magique.
Ah, attends deux secondes, je vois que Valérie nous dit que la licence GPL est reconnue par la justice française depuis 2007. Voilà, pour répondre à ta question.
Il y a deux articles sur nextimpact.com.
Merci Valérie.
Qui nous rappelle au combien la licence...
Il faut absolument que tu coupes le micro.
Qui est Jean-Luc?
Bah, lance la musique, comme ça on peut régler les micros peut-être.
Ouais,
ouais, à la limite, ouais, voilà.
On va faire ça.
Ce soir,
calmement.
C'est émission chaotique.
Avec un petit morceau précisément pour se mettre dans l'ambiance bon, qui pourrait être. Hein, tandis que je trouve là du. Waouh, ouais, je vois ça. Et du hip-hop avant juste notre émission de...
de What is in the Zip.
Oui, ça pristouille. Allez, c'est parti. Cool Nights par Dixie. On voit ce que ça donne.
C'est moi qui parle, c'est Holm. Ouais, en tout cas, ça va très très fort ton micro, Fredux. Là, j'entends super. Un peu faiblement.
Eh ben donc, voilà. Bon, moi, je suis à 43%. Je peux faire
moins ou plus,
on va le dire. Hein. Ou couper. Ah bon, ça va. Thank you.
dance around the next corner. So.
Un petit morceau instrumental de hip-hop de Dixie avec son Cool Nights pour annoncer nos successeurs après cette émission. Et voilà, le temps aussi de régler les problèmes techniques. Je crois que Gilbert Cisrimondon serait fier de nous. Holm et Jean-Luc, vous êtes au bout du fil de l'optique.
Oui. Absolument.
Ah voilà, ok. De un, voilà, ton micro est bon. Merci Jean-Luc, c'est splendide. Et Holm aussi. Dites, voilà, je ne sais pas si vous étiez au début de l'émission, enfin, pas tout au début, mais de ce petit passage de la thèse que Robert avait fait en 2002. Parce qu'on est ensemble, effectivement, grâce à vous, pour en savoir un petit peu plus sur ce grand homme qu'on a croisé épisodiquement. Qui de vous deux, Holm ou Jean-Luc, avait envie de prendre la parole pour un petit hommage?
Un fromage?
On va prendre la parole tous les deux. Holm, tu commences?
Oui. Ok, donc... moi, ce que je peux dire, par exemple, c'est parler plutôt de son rôle dans Cassiopeia. Robert, c'est quelqu'un qui a compris très très tôt la nécessité en fait de l'usage de l'informatique pour l'internet, pour l'éducation populaire. C'est par là qu'il a commencé quelque part. Donc on le voit dans son parcours. Il a amené très vite cette notion-là pour aider des groupes associatifs, et puis aussi enseigner tout de suite j'ai un retour assez...
Oui, c'est Jean-Luc qui ne coupe pas son micro.
Ah pardon, oh là là. Attendez, je
coupe. Donc, en fait, il a...
C'est mieux ?
J'arrive pas à savoir si c'est Holm ou pas.
Oui.
Si, t'as ton... si tu t'entends dans ta propre voix, c'est normal.
Oui. Avec un certain
t'as pas de casque.
Et c'est ça qui est parfois un peu embêtant.
T'as pas de casque.
J'ai un casque.
C'est bizarre, alors. Mais bon, soit. Cassiopeia.
Donc, je vais continuer à expliquer un petit peu son parcours, je pense, par rapport à ça. C'est que donc, il a commencé, je pense, comme éducateur, et puis il est passé ensuite assez vite à l'aide à la fois aux structures, en expliquant en fait aux gens comment servir l'informatique pour fonctionner dans leurs associations, et puis à faire de l'enseignement des techniques qu'il avait apprises. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris par lui-même, qui a, je pense, tout de suite compris aussi l'intérêt de ces techniques informatiques dans cette idée-là. C'est qu'on n'est plus là dans le cadre d'un enseignement classique de cursus avec un prof et compagnie, mais l'informatique permet à chacun d'aller épuiser les connaissances dont il a besoin, tant en technique, en informatique, que dans le reste. Hein, on le voit avec Wikipédia et compagnie. Et ça, c'est quelque chose qu'il a compris très, très tôt. C'est quelqu'un qui a, je pense, été visionnaire dans cette idée-là. Et c'est comme ça qu'il est arrivé avec par rencontre et d'autres. Je n'étais pas là à ce moment-là, à fonder avec d'autres donc l'association Cassiopeia, qui, à côté de Domaine Public, a été une des deux grosses assos à supporter en fait, le domaine associatif depuis donc, les années 2000 jusqu'à... Il n'y a pas tellement longtemps où, petit à petit, avec l'évolution des choses, l'association s'est un petit peu épuisée et a fini par regrouper ses forces, notamment dans l'action du projet de Nubo.coop. Mmh. Donc, voilà. Ça, c'est un peu la sortie, ce qu'a pu ce qu'a donné finalement au final les engagements de Robert, mais je crois que tout au long de sa vie, il a eu comme ça une influence sur le réseau de gens qu'il a rencontrés et qui ont permis à beaucoup de gens en fait de prendre conscience aussi notamment de cette idée de décentralisation et de la réappropriation des techniques. C'est quelque chose de très très important pour lui. D'ailleurs, on le retrouve aussi sur son site comme des images de base, ce truc des réseaux centralisés, décentralisés, puis distribués.
Oui, ouais, c'est ça. Excuse-moi, je t'interromps de deux secondes, mais je suis effectivement là tout au début de son mémoire de 110 pages. Et à la page 5, dans les objectifs, c'est clair, les objectifs de ce mémoire sont de fournir un outil de compréhension et d'utilisation d'Internet aux militants et aux responsables d'organisations, d'associations, et de devenir, après sa publication sur un site Internet, un objet de discussion pour tout ce qui concerne la problématique abordée, à savoir les problèmes liés à l'Internet, outil virtuel de travail en réseau et sa connexion avec le réel. Et on est à la page 5 de son mémoire. Bam.
Oui, il était discret en fait. Robert, c'est quelqu'un qui avait une voix posée, qu'on voyait dans le coin, comme ça, dans les événements qu'il aidait à organiser. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a eu une réflexion très très poussée très tôt et qui s'est engagé avec beaucoup d'humilité et beaucoup de courage en fait dans tout ça.
Et toi, tu as eu des moments de collaboration avec lui, de partage de chantiers, de grandes envolées lyriques et cybernétiques presque.
Je ne vais pas dire ça parce que en fait ma collaboration elle s'est retrouvée dans le cadre de Cassiopeia beaucoup finalement à distance. On s'est retrouvé sur différentes réunions l'une ou l'autre organisation de trucs, mais c'est surtout les discussions sur l'ordre de fond en fait, des discussions par écrit qui étaient vraiment intéressantes.
Ok, vous aviez un échange épistolaire à distance, donc ça fait beaucoup hein, déjà.
Bah, sur les mailing lists en fait hein, et au final c'est parfois là où on a l'occasion de pouvoir mettre des réflexions dans le détail sur lesquelles on n'est pas dans la précipitation, mais où on peut revenir comme ça, sur des notions assez précises et en groupe, en fait, avec une vision une vision collégiale. C'était ça qui était intéressant.
Ça va l'air d'être vraiment son point d'orgue, le fait que ce soit les organisations, le monde associatif qui soit sa cible. On peut aller voir du côté de Jean-Luc, alors, quand il réouvre son micro. Comment toi, Jean-Luc, tu avais... fait la connaissance de Robert et comment vous aviez collaboré ensemble éventuellement à d'autres moments.
Voilà, on va tout de même maintenant. Donc, alors Robert, on s'est rencontrés.
Ça sature.
Ça sature beaucoup.
Ça va ? Je dois baisser un petit peu.
Ah ouais, tout à l'heure, c'était alors. Nickel.
Voilà, comme ça.
Ah, c'est parfait. Merci.
Bien, voilà. On s'est rencontrés grâce à Abélie et je travaillais avec Robert et je travaille toujours avec Robert quelque part sur deux projets, celui d'Abélie et celui de l'information sur le numérique. Ça, enfin voilà, donc alors pour Abélie, je suis actif dans le secteur associatif hein, depuis une vingtaine d'années. Je suis journaliste depuis toujours, oui, en tout cas professionnellement depuis une trentaine d'années. Et donc c'était sur ces deux volets-là en fait qu'on travaillait ensemble. Le premier peut-être sur le volet journalistique. Robert avait une acuité, une intelligence, une prise de distance, une expérience sur le numérique qui m'interpellait et aussi donc son parcours dans l'informatique publique et son désamour partagé, si je puis dire, m'intéressait dans le sens où je trouvais que c'est bien d'écrire un petit peu ces histoires de grands projets d'un numérique citoyen responsable qui veut apporter ou faire tendre les gens vers l'autonomie, sont construits et puis après sont parfois démolis pour des raisons ou financières ou politiques ou les deux. Et donc il avait vécu ça et il en parlait avec amertume et puis avec de la distance. Et on travaillait sur ce récit-là qui fait écho avec récemment, hein, donc certains d'entre vous l'ont vu passer, les interrogations qu'il y a sur la pérennité des données de santé des Belges, qui sont un peu quelque part siphonnées là, sur le coup, par les pouvoirs publics et par l'État. Voilà, c'est un petit peu dans cette mouvance-là, sachant que ces données-là sont stratégiques, ont une grande valeur, sont politiques, et que dans un État de droit, elles doivent être protégées, et que en Belgique, certains courants extrémistes pourraient avancer vers le pouvoir et pourraient être intéressés par ce type de choses. Donc voilà, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là qui est important et auquel Robert et moi sommes sensibles et toutes les associations ou tous les mouvements libristes qui sont dans cette mouvance-là. Donc voilà, bon, ça c'était le premier point d'accroche. Le deuxième, c'était Abélie. Donc il est venu petit à petit et donc je l'ai interviewé. On a fait un article qui a été publié où on donne un peu la parole aux militants adhérents d'Abélie, donc à Agnès, que certains d'entre vous connaissent, à Fredux, que certains d'entre vous connaissent également, Virginie et à Robert. Et je trouvais qu'il a une belle formule par rapport à Abélie, parce que bon, il a un caractère entier, Robert. Hein, hein, si je puis dire. Et je lui demandais, c'est quoi la valeur ajoutée d'Abélie, qui est quand même un endroit un peu particulier, surréaliste, dans le bon sens du terme. On ne comprend pas toujours ce qu'on y fait et ce qui s'y fait, mais ça se fait. Voilà. Et ça se faisait aussi par grâce à Romain, qui était un des fidèles. Et il m'a dit, je lui ai demandé, ça sert à quoi, Abélie, selon toi? Et pourquoi t'es rentré dedans? Et il m'a dit qu'il trouvait, c'est écrit, hein, je l'enverrai à un moment donné. Donc, mais en de mémoire, parce que je ne remets pas la main dessus à cause de mon foutu micro qui prend un certain temps à être réglé, que l'intérêt de la structure d'Abélie était de vouloir fédérer l'ensemble des mouvements, associations, collectifs qui militent ou qui travaillent avec ou en faveur du libre.
Ouais.
Donc une sorte de rôle de fédération. Et alors venant de lui, avec son histoire et son engagement dans une structure dont Holm a parlé, ça m'a beaucoup touché. Je pense que... Enfin voilà, c'est un petit peu pour ça qu'Abélie est là. Et donc, je m'engage solennellement devant Robert à organiser le barbecue d'Elug, dont Abélie parle depuis maintenant 5 ou 6 ou 7 ans. Voilà. Donc, c'est un engagement que je prends. Robert, ce sera fait dans les 2 ans.
Voilà, donc, effectivement, Abélie pour l'association belge de promotion du logiciel libre, pour sortir d'un acronyme, et un LUG, c'est un Linux User Group, un groupe d'utilisateurs GNU Linux, pour qu'effectivement le libre soit...
Et utilisatrice.
Le users, effectivement. Et de fait, c'est surtout dans les administrations aussi que Robert avait l'intention d'essayer de promouvoir, de pousser le plus possible l'utilisation du libre en général.
Ça a bien marché.
Hein?
Dans les associations, c'était une chose importante aussi. Je rappelle quand même, par exemple, que Cassiopeia, ça hébergeait les services de la CNE, la Centrale Nationale des Employés, qui est un syndicat, avec plusieurs dizaines de milliers d'affiliés. Que c'était aussi les services de la Zinocopad, Il y avait tout un tas d'autres services comme ça, associations assez importantes qui passaient par cette association qui n'a pas trop de vision sur le public. Mmh. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a un impact encore à l'heure actuelle.
Et les deux trucs dont tu viens de parler, Nazi n'est que parade et l'autre machin, il en est quoi aujourd'hui?
Bonne question. j'ai pas suivi le dossier, mais à mon avis, ils sont toujours relativement auto-hébergés. Ils ont les moyens, quelque part, de pouvoir payer ça. De la même que la CSC, il y a en fait tout un programme en fait d'accompagnement des membres de Cassiopeia au moment donné où on a réduit la voilure de l'association vers des solutions éthiques et durables pour eux. J'ai un peu suivi son chemin.
Mmh. Oui, 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 je vois effectivement le format d'Avned, oui, oui, oui. Ça me touche parce que, bon, effectivement, avec Robert, on avait prévu de faire une émission ensemble, comme le disait si bien Thiers tout à l'heure, et je suis très, très confus de ne pas avoir pu, entre guillemets, rebondir. Mais en même temps, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, que Robert était fort dans la distance, tu vois, je me dis que c'est... On n'a pas eu facile à se rencontrer sur cette idée de pouvoir faire un bout d'émission ensemble, dans la mesure où son efficacité est à, inversement proportionnelle à sa discrétion, quoi, dirais-je. Je ne sais pas si tu me fais suffisamment comprendre.
Oui, bah, il fallait le croisé à la fin d'une réunion pour aller boire une bière. Hein.
Ouais.
Ça, c'était le truc.
Ouais, ouais, ouais. Sapristouille, bon, mais voilà, un sacré libriste qui a fait énormément pour le monde associatif. Et c'était quand même aussi une petite pierre dans la chaussure des administrations, parce qu'il avait quand même... eu aussi des velléités de les faire changer, quand bien même la base, l'associatif, le monde du secteur non marchand, comme dans une administration aussi, c'est du secteur non marchand, ça brise tout. Mais non, j'ai souviens de discussions qu'il avait eues où il était quand même assez, pas dire un peu désespéré, mais il, voilà, il sentait que ça passerait pas le cap de l'administration, quoi. Au niveau du fédéral, c'était la croix et la bannière. Autant pour l'associatif, il a mis vraiment beaucoup de belles choses en place.
Tiens, vous savez citer quelques points où il était justement le plus virulent dans les administrations, où il essayait justement de faire changer des choses, des exemples qu'il a pu essayer de faire, même si ça n'a pas encore abouti, hein, ou que ça n'aboutira jamais. Mais...
Oui, ben, bon, moi, si je peux, j'ai mis mon micro à 47%. Voilà, donc oui, donc, de ces exemples, il y en a plusieurs, évidemment. Le plus éclairant est le CIRD, hein, donc... le centre un des centres de gestion de l'informatique publique bruxelloise, un des sponsors ou soutiens, c'est selon, des rencontres mondiales du logiciel libre de 2013 organisées par Abeli, avec tout un projet de mise en place d'une structure en partenariat non marchand promue par CIRB. Mmh. Qui a été, comment vais-je dire, renversé comme un château de cartes suite à un lobbying Microsoft.
Ah ben ça tombe bien.
Qui a provoqué quelque part le départ forcé de Robert, de la fonction publique. Donc oui, il y a pas mal d'exemples. Celui-là, c'est le plus sympa. Et donc si on contacte l'IRB maintenant, et le responsable de la communication de l'IRB, en tant que journaliste, on trouve quelqu'un qui est aux abonnés absents pour des raisons un peu mystérieuses. dont Robert avait une très claire vision. Voilà. Et donc, ouais. Bah, l'article s'opère.
C'est marrant. Il y a 30 jours exactement, j'ai envoyé un mail au CIRB pour demander « Tiens, en fait, c'est quoi votre putain de partenariat avec My Innovation Center de Microsoft ?»
Voilà.
Ça fait exactement 30 jours que je n'ai pas de réponse. Grâce au réseau Transparencia, c'est un site web à Transparencia, on peut envoyer des mails à des institutions publiques et autres pour avoir un petit peu d'avis. Aucune réponse. Aucune réponse. C'est pas le seul. Hein. Actiris, même chose.
Peut-être qu'ils savent pas.
On appelle ça l'obscurantisme.
Non, peut-être qu'ils savent pas ou ils ont oublié de te répondre. Enfin, non,
donc ils ont même oublié la politesse.
Tu fais du harcèlement administratif, franchement. Oui.
C'est scandaleux, cette pauvre fonctionnaire qui travaille durement à te répondre
attention,
en plusieurs années.
Non, mais c'est la question des déclarations d'intention, donc et l'opérationnalisation en termes juridiques, il y a un décret, un arrêté, et puis il faut des arrêtés d'application, pardon, il y a un décret, des arrêtés d'application. Et donc le libre, est, la plupart du temps, dans tous les programmes de toutes les déclarations gouvernementales de tous les gouvernements, sauf peut-être la NVR, mais bah, après c'est tout. Et donc là, il y a quelque chose à faire,
oui.
Qu'on doit faire, qu'un pays doit faire.
Oui, ça serait... Moi,
d'autres essayent de faire, mais c'est important.
Un gros problème.
Alors, sauf peut-être pour, en francophonie, le seul parti, à ma connaissance, qui est loyal et qui s'engage dans le libre de manière active et transparente, ce sont les écolos. Le reste, c'est du vent.
Plutôt. Bah, et le parti pirate.
Oui, j'allais dire les pirates, mais...
Oui, mais ils ne sont pas au pouvoir.
Oui, c'est ça.
Pas encore.
Je parle des gens qui ont pouvoir. Donc, il y a deux solutions. Voter écolo, voter pirate. Ou aller voir aussi les socialistes et les libéraux et leur dire respectez votre engagement. Voilà.
Oui, le souci, Holm. À mon avis, c'est au-delà de ça. C'est qu'il y a des portantes dans les administrations. Donc, tu peux avoir n'importe qui au niveau politique. Tant qu'au niveau de l'administration, tu as des gens qui ont fait carrière ou qui pensent faire carrière chez Microsoft, c'est pourri. Il n'y aura jamais de changement. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Tu as des gens qui travaillent donc à Bruxelles Innovation, machin chouette, qui viennent de chez Microsoft ou comptent y retourner. Donc, voilà.
Ah. C'est le petit jeu de balançoire, une fois à gauche.
Les portes tournantes, on appelle ça. Ça marche bien à l'Europe aussi.
Oui. J'avais suivi
donc
ça.
Donc il faut offrir leur tablette aux responsables informatiques de l'administration publique, alors.
Ou bien faire pays dans le pays. Utiliser, par exemple, la
monnaie
libre.
Il faut sélectionner les gens correctement. Et disant, tiens, t'as bossé chez Microsoft, ben, tu rentres pas là.
Et créer une société parallèle. Mm-hmm. Avec des valeurs beaucoup plus sympathiques.
Voilà, que l'on...
Moi, j'aime bien pays dans le pays. Ça me fait songer aux acteurs et aux actrices en présent.
Mais oui, effectivement. La référence était assez directe. Ça, c'est un petit peu aussi dans ce que l'on retrouve dans le site Soyez Résolu. Ou pour... j'essaie de rattraper le lien.
Bien essayé la transition.
Ouais, bien essayé.
Mais... Qu'est-ce que c'est que Soyez Résolus ?
Alors ?
Soyez Résolus. C'est un...
C'est un acronyme, encore une fois. Hein,
ouais, que, non. Ouais, c'est
les
ça.
Geeks, ils aiment
c'est
bien les acronymes
français,
récursifs.
C'est les geeks français. Donc, c'est un site qui rassemble une base documentaire à la destination des nations, des associations, pardon. Pour les aider à faire la transition justement vers des outils libres et auto-appropriés. Donc c'est très intéressant, c'est relativement bien mis en page, contrairement par exemple au wiki de l'April qui est un peu plus rude. Donc ça permet d'aborder des assos qui ont juste aucune notion et qui quand même
ont quelques doutes sur les outils des GAFAM, avec une série de solutions qui sont déjà un peu correctement mises en place. Alors le truc, c'est qu'il faudrait un parallèle en Belgique, avec parce que Soyez Résolus, c'est un exemple qui fonctionne avec en fait une association qui est le CMEA France et un chaton, donc Picassoft, je me rappelle, qui ensemble accompagnent les assos pour nouveaux outils. Donc le truc, c'est qu'en Belgique, il faudrait aussi avoir quelque part des accompagnements, en fait, par rapport à une transition d'association, ou voire aussi des écoles, en fait, parce que tout l'enseignement est dans le même problème. Voilà.
Ah oui, ok.
Moi, j'aime bien quand même référer l'acronyme récursif parce qu'ils aiment bien ça, ou je sais pas quoi. Le résolu, hein, parce que c'est un beau mot, résolu. Ça veut quand même dire le réseau éthique, solution ouverte pour libérer vos usages.
Joliment dit.
Moi, quand j'entends le mot usage, je ne peux m'empêcher de penser aux usagers. Les usagers. Je me demande parfois si c'est pas ça le problème. Parce qu'on a beau mettre tout ce qu'on veut comme infrastructure extraordinaire, avec des logiciels les plus libres qui soient, il restera toujours ces putains d'usagers qui préféreront le confort. Quitte à donner toute leur vie,
pour une bonne
toutes leurs photos, à taguer les visages de leurs amis et autres
membres. Et animaux.
Et animaux, oui, évidemment, maintenant, bah, c'est reconnaissance faciale animale, c'est pour bientôt. Non, donc, ces putains d'usagers, on ne peut pas faire autre chose que les éduquer, mais je n'ai pas envie de les éduquer parce qu'ils sont libres aussi, tu vois. Moi, je suis face à un paradoxe quand j'entends qu'on devrait mettre en place d'autres réseaux éthiques et solutions ouvertes pour libérer vos usages. Comment est-ce qu'on va libérer les usagers de leurs conneries? Ça, j'en sais rien du tout.
Les gens ne sont pas au courant de ce qui est fait avec leurs tags. Voilà,
pour en avoir discuté avec au moins 300 personnes, au moins 300
tous
personnes.
Tous les deux en même temps, ça marche pas trop.
Si, mais non, mais pour en avoir vraiment discuté au moins avec 300 personnes, sur les 300 personnes, il y en a au moins 280, j'aurais dû les compter, qui en ont juste rien à foutre des usages de leurs données. Mmh. Et face à ça, moi, je sais pas quoi faire.
Je crois que c'est parce que tu n'as pas bien écrit.
Alors, peut-être...
Je les ai écoutés, après... je n'ai pas cherché à les convaincre, je les ai écoutés.
Oui, là peut-être, j'ai peut-être je voudrais dire quelque chose. Moi, je suis dans l'éducation populaire, et donc nos publics sont les travailleurs du secteur associatif et nos marchands et les demandeurs d'emploi. Alors, il y a deux choses que je retiens. Un, c'est un peu comme avec les tomates, elles repoussent chaque année, et donc on a le mildiou chaque année, ou pas. Mais ce n'est pas linéaire, l'éducation, et la relation non plus, avec ma chère et tendre, et avec mes amis les plus proches, et avec mes ennemis. J'ai des relations qui ne sont pas unilatérales, donc c'est une boucle. Et donc, ce n'est pas ni blanc ni noir, et donc ce n'est pas ou Facebook ou du libre. C'est quelque chose de mouvant, et ça peut basculer à tout moment. Bon, ça, c'est quelque chose qui est important à intégrer. Alors, l'autre domaine aussi, c'est qu'on sous-estime parfois la curiosité des gens. Je pense que les gens, naturellement, sont curieux, et qu'il y a un travail à faire pour attirer leur curiosité. Et quelque part, les autres environnements, dont propriétaires, Facebook, Microsoft, enfin, on les connaît, hein, eux, ils font le boulot. Eux, ils sortent, ils tapent à la porte, ils bougent et ils sont motivés. Moi, ce que je comprends pas, c'est le manque de personnes motivées qui rassemblent non pas les combattants, mais les combattus.
Il y a aussi question de sous derrière.
Oui, quand il y a des dividendes annuels à verser aux actionnaires. Ouais, de fait, ça motive un petit peu pour aller chercher du pognon. Là,
je rajouterais même, il y a une question de pouvoir derrière.
Mais nous, on a la tartare de jote et le blanc bien.
Alors, oui, mais le temps. Alors ça va.
C'est pas le même.
Et quelles nouvelles du libre dans vos contrées et dans vos quotidiens, Jean-Luc et Holm?
Alors moi, et puis après, je dois vous laisser parce que c'est l'heure de l'apéritif. Et donc, il y a du monde. Ah ouais, alors un beau grand projet, puisque il n'y a pas de raison, hein, puisque Google et autres ont des sous. Et donc, nous, on doit en chercher. Et je pense qu'on en trouve parfois. Alors, on a les nouvelles du libre. On attend avec impatience des nouvelles d'un projet européen qu'on mûrit depuis 3 ans, avec différents acteurs, dont Nubo, pour faire un portail de ressources éducatives numériques libres. On a dû le mettre en anglais parce que c'est un projet européen, ça s'appelle Open Minds. Mais on a des beaux pirates comme Asodef, Marsnet, un chaton français. On a Transit qui gère les centres culturels à Barcelone, en Espagne. Ah, pardon, en Catalogne. Pardon, en Catalogne. On a des Roumains à Cilicie qui font de l'action de terrain. Et donc, on a vu 2 ou 3 chouettes initiatives comme Framasoft et d'autres. Et donc, on se propose de les mettre en lien et d'en faire une version belge francophone. Et Martin Koch, que certains d'entre vous connaissent, s'est engagé à en faire une variante néerlandophone. Donc nous avons le vent dans le dos.
Ok.
Et le libre aussi. Bon. Le libre belge, bio et local.
Sans glyphosate, voilà. et sans perturbateurs endocriniens.
Voilà.
Je souhaite, Jean-Luc Québec, que tout aille bien de ce côté-là. Bon vent. Et voilà, super que ça se mette en route. Et voilà. Hein. Bon vendredi. Et bon,
c'est un petit rosé corse. Bien frais.
Super, à tout bientôt. Merci,
à Robert.
Ouais.
À Robert.
Grande santé à Robert.
À Robert.
Et toi, Holm, de ton côté, qui est nouvelle du front, libriste?
Nouvelle du front. J'ai eu quelques retours et discussions avec Educode. J'ai participé un tout petit peu à une discussion là. Apparemment, ça bouge au niveau de la communauté française et du support des écoles par rapport à Moodle, par exemple. Donc, il y aura probablement des bonnes nouvelles par la suite. Je crois que ça a fait bouger les choses, le Covid, là. Mais ça, il y aura d'autres personnes pour en donner plus de nouvelles, je pense, notamment Nicolas. Et puis, oui, il y a une bonne nouvelle de mon côté, de ce qui me concerne, c'est-à-dire la VR. Il y a Blender qui est utilisable avec un casque de réalité virtuelle, même sur Linux maintenant. C'est assez chouette de pouvoir voir ses productions directement avec le casque dans cet espace complètement de science-fiction. C'est génial.
Wadi.
Donc voilà, ça bouge bien.
Et la réalité virtuelle, toi, tu la mettais en route avec plus de l'artistique que du fonctionnel. Il y a aussi tout un moteur de jeu, je pense, que vous aviez développé à l'époque avec Flat.
Tu as 5 minutes.
J'ai 5 minutes, non. C'est un moteur de jeu, on a travaillé sur, avec... et il y a surtout le moteur de jeu Godot, qui est bien fonctionnel maintenant. Et alors, ce qui se développe pas mal non plus, c'est A-Frame de Mozilla, qui permet de faire des scènes qui sont visibles avec à peu près n'importe quelle plateforme, sauf Linux justement, mais sur le web. Ça permet de faire du web VR très facilement, c'est super. On peut même se retrouver à plusieurs avec Mozilla Hub.
Il y a donc eu pendant le confinement des événements qui se sont passés dans cet espace-là, enfin dans ces espaces-là, le multiverse, dont une exposition qui commence devait se passer en vrai et qui a fini par être diffusée complètement en virtuel. C'est des choses intéressantes avec du logiciel libre là aussi.
Ça donne envie. Hein. C'est comme le petit rosé corse de Jean-Luc, ça donne aussi envie de vite aller là-bas. Mais WebVR, par contre, ça c'est un truc qui m'intriguait un petit peu.
Fred, viens, on t'en laisse une. On t'en laisse une bouteille.
Ah, mais t'es toujours là, Jean-Luc.
Ah, ben.
Je suis fidèle.
Et grâce à Robert, je découvre un truc que je n'ai jamais entendu parler, banlieue au pluriel, .be. Donc banlieue.
Oui, en fait, c'est avec banlieue et salut Rudy.
Je n'ai jamais de ma vie entendu parler de banlieue ASBL. C'est en parcourant le site de Robert que je tombe sur banlieue.be.
Donc qu'est-ce que c'est? C'est une ASBL qui fait de l'information et qui fait un peu comme Cassiopeia et Domaine Public, un adossement et un soutien à la création de sites pour le secteur associatif. Donc ils ont pas mal de références, Lire et Écrire Communautaire et d'autres. Et donc ils font un chouette boulot. Et c'est là qu'on devait faire la formation, co-organisé avec le CESEP et banlieue. Alors le CESEP, ça, oui, vous n'avez peut-être pas entendu parler, hein. C'est le Centre Socialiste d'Éducation Permanente. Ça ne s'invente pas.
Hein.
Voilà.
Ah ouais, situé au pays d'un
rosé.
Bon rosé.
À la bonne tienne, Étienne. Donc, banlieue aide les organismes du secteur associatif à entrer dans le monde des TIC, technologies de l'information et des communications, en leur offrant des produits et des services technologiques adaptés à leurs besoins. Et de fait, chez banlieue, il y a aussi une zone libre dans laquelle on fait la promotion.
Oui, ça, ils sont très sensibles à
des logiciels libres. Ouais. Ben voilà, découverte du jour. Banlieue au pluriel.be.
C'est Belgique. Hein.
Quoi dit ?
Il y a des tas de trucs. Ils sont juste à côté de chez vous. Super important, mais vous ne le savez pas.
Exactement. C'est vraiment une des considérations que j'ai de ces dernières années, ouais. C'est qu'il y a vraiment des trucs juste à côté que tu n'as jamais entendu parler.
Ça s'est passé près de chez vous, quoi.
Ça, c'est parce qu'avec
l'idée. C'est exactement ça. Gamin, reviens, c'est pour rire.
Ouais.
On se fait éjecter.
Tout doucement, ouais, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Jean-Luc.
On va rendre l'antenne, Fred. Jean-Luc.
Ouais, on va communiquer plus sur Abeli, effectivement.
Communique.
Et sur le CESEP aussi. Holm, merci beaucoup. À tout bientôt. Jean-Luc, bon apéro.
À bientôt, merci vous.
Chers amis en studio.
Et puis,
salut. Salut. À bientôt.
Ouais. Et.
Alios.
Premier godet à Robert. Enfin, allez, même la première bouteille pour Robert.
À Robert.
À Robert.